C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de Drive to Store et pour m'accompagner, je suis avec Camille Poignant. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. Bah oui, pourquoi les entreprises veulent toujours du Drive to Store? Bah les réseaux, c'est maxi cool, hein. Mais n'oublions pas qu'un client content, c'est aussi un client qui touche les produits, qui les compare, qui peut discuter avec un vendeur. Et puis en magasin, on se laisse facilement tenter par un petit achat compulsif.
Oui, effectivement. Et surtout, il y a un gros sujet, hein. Je pense surtout en ce moment, en post-confinement, hein, qui est celui de mettre à profit le lien que les marques créent sur les réseaux sociaux pour renvoyer des monde dans les magasins pour les aider à re-remplir après cette période de distanciation physique, que les gens reviennent en magasin. Donc du coup, on s'est dit, tiens, c'était intéressant de creuser sur ce sujet avec un angle qui est le suivant. Comment les réseaux sociaux peuvent vous soutenir vos campagnes en Drive to Store quand on est une marque? Ce qu'on peut déjà commencer à dire, c'est que le Drive to Store, c'est finalement vieux comme le monde, hein. Il n'y a rien de... Le terme fait très 2010, mais concrètement, ça existe depuis une éternité. Hein.
Oui, ça fait super marketing. Hein. Le Drive to Store, c'est tout simplement d'amener des gens en magasin et les premiers leviers. Mais c'est vrai que moi, ce mot me perd, hein, m'a toujours perdu au final. Et je me suis dit, c'est un nouveau mot. Non, les leviers marketing principal du Drive to Store, hein, c'est tout ce qui est leaflet, flyer, posé en boîte aux lettres et qui aide les gens à revenir dans un magasin.
Ouais, et puis les annonces radio éventuellement, etc. Tout ce qui est action de marketing ou de communication pour faire venir les gens en magasin. Hein. Sauf que, eh bien évidemment, les enjeux du Drive to Store, ils se sont petit à petit, très logiquement, déplacés vers des leviers digitaux. On pense forcément au SEO, on pense aussi aux publicitaires, on pense aux publicitaires dans le moteur de recherche, on pense aux publicitaires sur les réseaux sociaux, avec plein de techniques marketing, web marketing qui se sont rajoutées pour aujourd'hui avoir un panel d'outils Drive to Store.
Tu parlais de 2010. 2010, ouais, c'est à peu près ça. Je pense que c'est dans ces années-là où 2007 où le terme a été inventé pour vendre du Google My Business, du SMO, du SMA de base sur les réseaux sociaux.
Ouais, voilà, il y a un peu de ça sans doute, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en 2020, eh bien le parcours d'achat du consommateur, il a jamais été autant omnicanal. Canal, hein, c'est-à-dire que ça passe aussi bien par le online, en digital, et puis aussi, évidemment, le offline, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure. Et du coup, on se retrouve avec des points de contact qui sont interconnectés tout au long de l'expérience et du buying pass. Du buying pass, qu'est-ce que c'est? C'est le cheminement vers l'acte d'achat. Eh bien, ça passe aussi par la boutique. Donc, c'est intéressant de creuser et de voir comment nous, social media managers, marketeurs social media, eh bien, on peut accompagner nos marques, nos clients dans cette stratégie Drive to Store. Peut-être le premier gros levier, c'est un peu les fondamentaux, hein, c'est de penser local SEO, SMO. Alors, je suis désolé pour les novices, hein, et là, j'arrive avec plein de jargon bien social media. Qu'est-ce que c'est le local SMO, Camille?
Donc, le SMO, Social Media Optimization, c'est-à-dire que tu soignes ta page Facebook, ton compte Instagram, ton compte Google My Business, c'est-à-dire que tout simplement, bah, tu vas renseigner la bonne adresse, les bonnes horaires d'ouverture, les bonnes infos de contact, les bonnes infos de description, t'assurer que ton local s'affiche comme ouvert. Ça paraît tout con, mais sans ça, eh ben, on n'est pas visible suffisamment sur les réseaux sociaux en local.
Ouais, effectivement. Alors sur Facebook, ça va être aussi basculer peut-être un réseau d'enseignes avec une vraie structuration sur Facebook, avec une page mère et des pages locales. Ça, on sait que nombre d'acteurs aujourd'hui ayant des magasins physiques n'ont pas encore passé ce cap. Ça, c'est un impératif aujourd'hui puisque ça ouvre. C'est là que toutes les fenêtres du Drive to Store peuvent s'ouvrir côté Facebook. Ouais. Donc structurer une page et puis des marques enseignes avec des dispositifs, avec des implantations locales.
et on ne parle pas des enseignes qui ont encore un compte Facebook comme compte de marque.
Oui,
pour ajouter des gens en amis.
Oh, et ben, eux, on peut leur parler, ils peuvent nous appeler, hein, on a des choses à leur dire. Et puis, côté Instagram, évidemment, là aussi, beaucoup de choses en local SEO, SMO, donc optimisation de votre social media avec un angle local. On pense forcément à la géolocalisation de vos posts. On a déjà fait de nombreux épisodes de podcast sur ce sujet, utiliser les outils de géolocalisation. On pense, par exemple, au hashtag géolocalisé aussi, hein, mettre le nom de ton quartier, hashtag Croix-Rousse, si tu es, ou Lyon-Croix-Rousse, si tu es à Lyon-Croix-Rousse. C'est un bon moyen de se positionner dans les réseaux sociaux avec un angle local. Ça, je dirais que c'est un peu les fondamentaux de base. On va tâcher dans cet épisode de creuser un petit peu plus loin sur vraiment les outils qui sont à notre disposition, avec un premier qui pour moi est l'arme absolue de ta stratégie Drive to Store, c'est GMB, hein, Google My Business.
Ouais, Google My Business, depuis plusieurs années, on voit qu'il monte très très fort, et en 2020, on peut dire qu'il a peut-être gagné cette partie du marketing local. Dès qu'on fait une recherche dans Google, on ne trouve plus forcément toutes les pubs sponsorisées ou tous les tonnes de mots-clés cachés sur les sites. On voit en premier la page GMB du commerce qui correspond à ma recherche perceuse. Je vais avoir Castorama qui s'affiche à droite avec toutes les infos bien claires, un lien pour l'itinéraire, un lien pour le site web, un lien de contact. Donc GMB est vraiment aujourd'hui au cœur des moteurs de recherche.
Ouais, et puis c'est aussi l'outil numéro un pour le Drive to Store. Je suis tombé sur quelques chiffres en préparation de ce podcast. En moyenne, dans le secteur du prêt-à-porter par exemple, eh bien, ton Google My Business, ta fiche Google de marque, elle apparaît des millions de fois par an et elle compte des centaines de milliers d'interactions. C'est un endroit ultra important. Donc aujourd'hui, quand tu es une marque comme comme une marque comme Fago par exemple, qui évidemment est un gros acteur e-commerce, mais a aussi des stores locaux installés dans les grandes villes et les grandes métropoles. Évidemment qu'avoir une grosse présence GMB, c'est un pourvoyeur de trafic et de Drive to Store. Excuse-moi, je t'ai
coupé. Non, ouais, du coup, je te disais, hein, là, tu donnais un exemple de Fago. Moi, je peux te donner l'exemple d'un de nos clients, qui est le groupe Seb, avec des magasins locaux, justement. Et c'est vrai que bon, c'est des petits magasins de villes secondaires. Alors, on pourrait s'attendre à avoir peu d'interactions. Et on voit que sur un trimestre, hein, quand on met le nez dans les statistiques, on a parfois 10 000 clics sur itinéraire, 3 000 clics sur les horaires, 3 000 clics sur ci, sur là. Et tu te dis la force du Drive to Store. Au moment où tu cliques sur l'itinéraire, c'est que tu es prêt à y aller, en fait. Et tu es déjà dans ta voiture et du coup, tu balances l'itinéraire. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de clics sur ces boutons-là.
Ouais, et notamment cette fonction de recherche d'itinéraire, c'est vrai que c'est devenu le plus gros levier dans GMB. Et en termes d'usage, c'est massif, hein. Par exemple, pour la marque Aigle, et bien Google My Business, ça représente jusqu'à 100 000 demandes d'itinéraire par an, qui évidemment pointent vers des boutiques, hein, des stores Aigle. C'est quand même faramineux. Et là, en matière de Drive to Store, outil simple de déploiement, juste, et ça va vous demander de la rigueur, qui est celle de tenir à jour vos fiches Google My Business, peut-être de les booster aussi avec des posts, hein, donc utiliser la fonction Google Post de Google My Business, mais outil tellement énorme que c'est même étonnant que certains l'oublient.
Et pour ceux qui n'en sont pas convaincus, hein, vous en avez pour 2 minutes à créer ce compte, et derrière vous aurez des stats quand même assez rapidement, donc c'est intéressant de regarder.
Voilà, donc ça c'est l'outil un petit peu majeur du moment. On pourrait parler aussi évidemment de l'angle publicitaire, hein, parce qu'il y a beaucoup qui se joue là quand on souhaite mettre en place une stratégie de Drive to Store pour une marque, et notamment parler d'hyper géolocalisation des annonces publicitaires autour des points de vente.
Ouais, donc là, ça va être du maxi ciblage, hein, publicitaire. On peut, alors ça dépend où on habite, mais en tout cas, on peut ultra segmenter notre zone géographique. En plus de cibler les bonnes personnes, on peut dire qu'on fait une publicité seulement dans un rayon de 10 km. Alors, je crois que ça commence à 7 km et jusqu'à plus de 150, ça dépend des réseaux. Mais là, ça nous permet vraiment d'avoir une zone de chalandise qui nous connaît déjà, restreinte, et puis de toucher des personnes ultra qualifiées.
Ouais, c'est ça. Hein. Là, nous, d'expérience, on va pas citer de compte client pour ça de l'agence, mais c'est vrai qu'on a un déploiement aujourd'hui en cours sur un acteur qui a un gros besoin de faire du drive to store, qui est passé avant par des canaux plus traditionnels, on va dire, hein, notamment ce qu'on appelle du boîtage dans le jargon, c'est-à-dire tout simplement du flyer dans les boîtes aux lettres. Et là, ce qu'on a mis en place pour lui, c'est une stratégie de campagne hyper géolocalisée sur les réseaux sociaux, hein, donc sur Facebook. En Facebook Ads, quel a été le périmètre choisi, quoi, 7-10 km autour de la boutique, quoi.
Ouais, là, c'était un petit peu plus, c'était 20 km, parce que c'est quand même des gros magasins.
Ouais,
mais en tout cas, en zone rurale, ouais. Donc, le défi est d'autant plus grand. Et quand on parlait de prospects ultra qualifiés tout à l'heure, il y a un truc qui est intéressant. Si tu racontes ça à un marketeur, il va dire, ouais, mais attends, comment tu sais que le mec, il est qualifié pour acheter, qu'il est dans la cible? Ben, là, il est déjà qualifié pour le drive to store, avant même de commencer à parler de qu'est-ce qu'il va acheter. Il habite à côté, donc il a plus de chances de venir chez nous. Après, il y a encore un autre débat derrière.
Voilà,
sur l'achat.
Et puis évidemment, qui dit hyper géolocalisation dit aussi hyper contextualisation. Hein, ça, c'est quand même un des opportunités aussi de Facebook Ads, hein, c'est que tu vas pouvoir faire de l'hyper géolocalisation et puis aussi évidemment travailler ton visuel de campagne, tes wordings pour qu'ils soient adaptés à l'endroit où tu souhaites faire du drive to store. Plein de choses à chercher là-dessus. Et aujourd'hui, une campagne de drive to store, elle passe par ça. On peut aussi parler de cette fonctionnalité qui s'appelle visite en magasin, une fonctionnalité disponible sur Facebook Ads, hein, donc en publicitaire sur Facebook. Et là, Facebook en fait te propose d'inciter les prospects ou les clients de la marque à se rendre en magasin de façon très claire. Cette typologie de campagne, elle est assez intéressante, notamment quand tu es une enseigne en réseau, hein, tu vois, quand tu as des franchises et puis des franchisés et que ouais. Tu as un ensemble de pages locales à promouvoir, ça marche pas mal. En gros, ce que ça te fait, c'est que ça te crée un mode d'achat en mode impression, hein, donc tu achètes du volume, on va dire, sur Facebook Ads, et le but, c'est de cibler les personnes parmi les prospects qui sont vraiment à proximité des points de vente. Donc quand tu es dans des logiques de métropole, par exemple, c'est très intéressant parce que tu vas pouvoir arriver à un niveau de précision encore plus soutenu, hein.
Donc là, il faut bien évidemment, j'imagine, avoir un contenu visuel qui, en plus de ça, te donne envie de venir en magasin. C'est pas juste ces gens qui vont voir venez et qui vont venir.
Exactement. Alors, peut-être un bon moyen de les faire venir en magasin, ça peut être le couponing, par exemple. Hein. C'est vrai que ça, c'est je dirais que c'est un peu un réplica de ce que tu vas trouver sur du boîtage, hein, quand tu reçois ton petit flyer en disant venez avec ce prospectus au magasin et on vous fait moins 20% sur votre, je sais pas, votre lave-vaisselle. Eh bien, tu peux imaginer reproduire ces codes-là sur les réseaux sociaux. Là-dessus, je suis tombé sur une étude de Retail Minote, hein, qui est une société spécialisée justement dans le couponing digital. Et cette étude nous explique que plus d'un consommateur sur deux, un 52%, a déjà utilisé un coupon de réduction qui a été diffusé sur les réseaux sociaux pour bénéficier d'une offre en magasin, alors en l'imprimant par exemple, ou alors carrément en arrivant avec le mobile et je le montre à la caissière. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'il y a quand même plein d'actions très faciles à monter autour du couponing et puis qui peuvent venir accompagner vos actions de community management, par exemple.
Alors, il y a plein d'outils, hein. Il y a plein d'outils comme ça qui permettent de faire du couponing. Et puis, l'outil principal aujourd'hui, c'est notre mobile. Pour moi, il y a toujours eu que les belles-mères ou les beaux-pères qui gardaient les coupons papier, qui arrivaient à savoir où ils étaient. Moi, je me disais parfois, oh, tiens, super, c'est intéressant. Puis, je le perds ou alors je le laisse tomber ou alors voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, tu fais une capture d'écran, tu te pointes en magasin avec ton truc et c'est beaucoup plus intuitif. Donc, faut pas oublier de les actionner, ces outils.
Ouais, voilà, ça, c'est des trucs actionnables facilement. Vous faites une petite créa en disant, tiens, en ce moment, on fait moins 10% là, cette semaine. Faites une screen capture et venez nous la présenter quand vous passez en magasin. Bim, tu fais du drive to store tout simple et que tu peux même mesurer, hein. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'après tu peux très bien avoir des actions en magasin pour mesurer tous ceux qui arrivent avec tel code promo. Je trouve que c'est simple et efficace. Tu peux imaginer même faire la même chose de façon peut-être un petit peu plus poussée avec du live, par exemple. Imagine si sur un live tu greffes des actions de couponing avec par exemple un mot de passe magique, tu vois, que tu donnerais que pour le live, que pour tes clients très engagés. Ça, c'est un super moyen de faire du drive to store et puis en même temps de renforcer le lien entre la marque, la boutique et ses consommateurs. Je trouve ça plutôt intéressant à bosser.
Et ça va, je rebondis là sur ce que tu viens de dire. Il y a une action, tu sais, de Facebook, hein, qui est en cours là pour permettre de vendre sur les lives. Un influenceur, par exemple, ou une marque choisit avant de lancer son live quelques produits et il pourra les lancer pendant le live. Donc, ça peut marcher pour un produit en promo, pour générer du drive to store. Tu commandes un produit, tu vas faire un retrait en magasin.
Ouais, tout à fait. Ouais, ça c'est. Alors là, on parle vraiment de drive to store, mais c'est vrai qu'aussi sur le click and collect, il y a évidemment plein de choses à faire. Où là, on va avoir peut-être des mécaniques qui sont plus proches du e-commerce traditionnel, puisque l'action d'acte d'achat va se passer online. Là où le drive to store, c'est ce qu'on n'a peut-être pas précisé au début. Le drive to store, eh bien, l'action d'achat se passe en boutique. C'est ce qui fait peut-être
c'est la différence.
Ouais.
On peut parler après.
Vas-y, pardon.
Excuse-moi. Après, certaines boutiques, hein, certaines grosses enseignes comme la Fnac, par exemple, quand tu leur achètes du click and collect, c'est malin, c'est à l'intérieur. Ça revient quasiment à faire du drive to store parce que tu arrives dans le magasin et tu vas te retrouver probablement à acheter quelque chose.
En additionnel, hein, tu veux dire.
C'est pas un comptoir à l'extérieur, tu vois, où tu viens récupérer tes trucs.
Bien sûr, c'est pas un drive, quoi. C'est pas un drive, la Fnac.
Ouais. Exactement.
Autre outil à notre disposition pour faire du drive to store, c'est un outil qu'on sous-estime ou du moins auquel on ne pense pas souvent, c'est Waze. Waze, cette application de GPS hein, que tout le monde utilise, hein, même mes parents, moi, utilisent Waze. Hein, c'est vraiment impressionnant comme ce GPS de Google s'est imposé dans notre quotidien. Et ben, l'application Waze, elle propose pas mal de formats publicitaires qui, évidemment, sont ultra géolocalisés et peuvent être des vrais outils de drive to store intéressants. Alors, il y a pas mal de formules différentes. Il y a notamment les pins sponsorisés. Hein, en gros, ça te permet de placer sur la carte de Waze. Hein, tu l'as déjà vu, tu sais, quand tu passes à côté d'un Carrefour où tu as le petit icône marqué hey, Carrefour, Leclerc ici, Carrefour là. Voilà. Donc, ça typiquement, tu peux acheter, hein, même si tu es un petit commerce, si tu es une petite enseigne, te dire j'ai 4-5 boutiques, allez, je m'achète ça. Et puis derrière, avoir des activations à négocier évidemment avec Waze, hein, où tu vas pouvoir pousser tes offres, hein, insister par exemple sur un magasin qui serait ouvert le dimanche matin, booster la visibilité sur des heures creuses de fréquentation si tu as besoin d'insister. Il y a plein de choses organisables du côté de Waze.
Et juste au passage, je ne sais pas si c'est toi qui fais des tests, hein, mais à chaque fois que je m'approche de chez toi, Thibaut, j'ai tout le temps des pubs McDo ou Burger King, je ne sais pas pourquoi, mais dès que je passe le pont, là, bam, j'ai des pubs qui me tombent dessus sur Waze. Moi, perso, je déteste ça. Quand je suis dans ma bagnole, c'est déjà pas un très gros écran, hein, Waze, je veux regarder la route. Mais en tout cas, c'est clair que si tu cibles, par exemple, des personnes le matin qui vont au travail régulièrement, et ben à la limite, là, tu peux essayer de leur mettre quelque chose en tête pour qu'ils viennent dans ton magasin.
Ouais, exactement. Alors, il faut savoir que, évidemment, c'est du publicitaire, que tu achètes ça au CPM, hein, donc au coût par mille. Quelques éléments de pricing là-dessus pour que vous ayez un ordre d'idée. En gros, si tu souhaites mettre quelques points de vente, admettons que tu as une franchise avec une trentaine de magasins et que tu souhaites les installer dans Waze, hein, qu'ils soient juste visibles, ça va pas te coûter grand chose, ça va te coûter quelques dizaines d'euros par semaine, hein, concrètement, pour qu'ils s'affichent dans l'application quand quelqu'un passe à proximité. Et puis après, ça peut devenir nettement plus coûteux, hein, notamment ce qu'ils appellent des campaign takeover. Ça, c'est minimum 3000 euros, c'est quand vraiment tu as le bannering, tu sais, la petite bannière qui apparaît quand tu es dans la zone de chalandise. Et puis alors après, quand tu es dans des campagnes nationales, là, il va te falloir minimum 15 000 euros pour jouer, donc c'est pas à portée de tout le monde, mais peut-être que c'est à creuser, hein, pour certains gros acteurs, en tout cas certains acteurs où il y a un vrai besoin de booster le drive to store. Autre option de boost pour le drive to store, c'est le geofencing. Est-ce que tu vois ce que c'est le geofencing?
Ben pas trop, j'imagine que c'est géolocalisé.
Il y a géo dedans, en tout cas. Le geofencing, ça consiste à cibler des internautes en fonction d'un périmètre géographique défini et de leur balancer du SMS, hein, typiquement. Tu sais, c'est le grand classique. Tu passes dans une zone de près d'un magasin et à chaque fois que tu passes, tu te rends compte qu'une heure après ou deux heures après, tu reçois un SMS de cette même marque. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive fréquemment et notamment avec la boutique, puisque je parlais de Fagot, avec la boutique Fagot du centre-ville de Lyon. À chaque fois que je passe devant, c'est-à-dire tous les matins en allant au travail, peu de temps après, je reçois des pubs, soit sur Facebook, soit par SMS. Et ça, c'est du geofencing. C'est très intéressant à mettre en place quand on a des boutiques locales. Il y a vraiment des choses... Alors, c'est assez tech, hein, forcément. Ça va sans doute dépasser le cadre des actions d'un social media manager. Mais c'est vachement intéressant d'imaginer incorporer ça dans sa stratégie drive to Sous Store, combien ça coûte. Et ben pareil, c'est pas si donné que ça, mais c'est intéressant parce que tu es extrêmement ciblé. Il faut imaginer entre 15 et 25 centimes par prise de contact, donc ça peut vite chiffrer. Maintenant si évidemment tu es Leclerc et que le panier moyen chez toi c'est 200 balles, ça vaut le coup de mettre 15 centimes. Hein.
Ouais, c'est clair. Et donc là, on a sorti pas mal de méthodes pour faire du drive to store, hein, pour comment communiquer pour attirer le drive to store. On n'a pas trop parlé de publicitaire. Bon, globalement, le publicitaire, on sait comment ça fonctionne. Quelle que soit la campagne, si on décide d'en faire sur TikTok, sur LinkedIn, sur Facebook, juste quelques petits rappels, ça peut être intéressant pour tout ça, parce que finalement, Waze, ça reste du publicitaire.
Alors, je crois qu'on dit Waze, hein, sauf peut-être en start où on dit ouais, Waze, mais moi... En France, on dit Waze.
J'ai quelques mots comme ça, moi, tu sais bien. Donc,
je sais bien, je taquine.
Waze,
mon cher Camille,
sur Waze également, ou le geofencing. Tout d'abord, un truc tout con, hein. On a déjà parlé plein de fois de l'intérêt de tes personas marketing. Avoir des personas bien établis, ça te permet de savoir à qui tu parles et ça te permet de personnaliser tes campagnes, quelle que soit la plateforme, encore une fois, pour que le message soit au plus près de l'attente de ces personnes.
Bien sûr,
là, on a parlé de plein d'outils un peu magiques. Ça, c'est les fondamentaux. Ensuite, adapter donc le message à chacune de ces personnes dans la mesure du possible. Et le final, pour moi, un des trucs les plus importants, pas de mesure ou pas de surveillance des campagnes, pas de monitoring égale pas de drive to store. Parce que c'est bien beau de faire une campagne, mais il faut aussi déjà bien choisir le canal, bien choisir le réseau éventuellement ou Google si c'est dans notre souhait. Il est important de bien analyser en cours de route, mais aussi après, pour traquer les retombées, pour voir s'il y a certains segments qui sont pas du tout sensibles au drive to store et sur lesquels on était prêt à dépenser des milliers d'euros, pas la peine. Et ensuite, pour aller encore un peu plus loin, il y a toujours cette histoire de pixels publicitaires qui n'existe pas que sur Facebook, qui existe aussi sur du Twitter Ads, sur du LinkedIn, etc. et qui nous permet d'avoir une approche beaucoup plus héroïste. Donc tous ces outils mis en place précédemment, c'est important de bien les mesurer et bien les analyser pour faire le plus de drive to store possible et de s'améliorer encore chaque jour.
Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire ce matin sur le Drive to Store. Qu'est-ce que vous avez vous lancé comme campagne, comme activation pour soutenir votre marque, pour soutenir les magasins que vous accompagnez? Quelle stratégie de Drive to Store vous avez déployée? Venez nous en parler sur les réseaux sociaux @supernatif.
Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok et Google My Business d'ailleurs aussi.
Voilà, et puis merci. Merci à vous tous d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Ça nous fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager cet épisode avec une pote ou avec un pote. Et puis, si vous traînez du côté d'Apple Podcast et que c'est là que vous nous écoutez, s'il vous plaît, mettez-nous un petit commentaire, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait très, très plaisir. On vous souhaite à tous une très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain.
Allez, ciao.
Salut à tous.
Ciao.